Chapitre 12. Comment le roi nomma des chefs qui n'étaient ni le duc d'Anjou, ni le duc de Guise. L'heure de la grande réception était arrivée, ou plutôt allait arriver, car depuis midi le Louvre recevait déjà les principaux chefs, les intéressés et même les curieux. Paris, tumultueux comme la veille, mais avec cette différence que les Suisses, qui n'étaient pas de la fête la veille, en étaient le lendemain les acteurs principaux. Paris, tumultueux comme la veille, disons-nous, avait envoyé vers le Louvre ses députations de ligueurs, ses corporations d'ouvriers, ses échevins, sa milice et ses flots toujours renaissants de spectateurs, qui, dans les jours où le peuple entier était occupé à quelque chose, apparaissaient autour du peuple pour le regarder, aussi nombreux, aussi actifs, aussi curieux, que s'il y avait à Paris deux peuples, et comme si, dans cette grande ville, en petit l'image du monde, chaque individu se dédoublait à volonté en deux parties, l'une agissant, l'autre qui regarde agir. Il y avait donc autour du Louvre une masse considérable de populaires. Mais qu'on ne tremble pas pour le Louvre. Ce n'était pas encore le temps où le murmure des peuples, changé en tonnerre, renverse les murailles avec le souffle de ses canons et renverse le château sur ses maîtres. Les Suisses, ce jour-là, ses ancêtres du 10 août et du 27 juillet, les Suisses souriaient aux masses des Parisiens, tout armés que fussent ces masses, et les Parisiens souriaient aux Suisses. Le temps n'était pas encore venu pour le peuple d'ensanglanter le vestibule des rois. Qu'on n'aille pas croire, toutefois, que pour être moins sombre, le drame fut dénué d'intérêt. C'était au contraire une des scènes les plus curieuses que nous ayons esquissées que celle que présentait le Louvre. Le roi, dans sa grande salle, dans la salle du trône, était entouré de ses officiers, de ses amis, de ses serviteurs, de sa famille, attendant que toutes les corporations eussent défilé devant lui, pour aller ensuite, en laissant leur chef dans ce palais, prendre les places qui leur étaient assignées sous les fenêtres et dans la cour du Louvre. Ils pouvaient ainsi d'un seul coup, d'un seul bloc, en masse, embrasser d'un coup d'œil et presque compter ses ennemis, renseignés de temps en temps par Chicot, caché derrière son fauteuil royal. Avertis par un signe de la reine-mère, ou réveillés par quelques frémissements, des infimes ligueurs, plus impatients que leur chef parce qu'ils étaient moins avant qu'eux dans le secret. Tout à coup, M. de Montsoreau entra. « Tiens, dit Chicot, regarde donc, Henriquet. »« Que veux-tu que je regarde ?»« Regarde ton grand veneur, pardieu, il en vaut bien la peine. Il est assez pâle et assez crotté pour mériter d'être vu. »« En effet, dit le roi, c'est lui-même. » Henri fit un signe à M. de Montsoreau. Le grand veneur s'approcha. « Comment êtes-vous au Louvre, monsieur ?» demanda Henri. « Je vous croyais à Vincennes, occupé à nous détourner un cerf. » Le cerf était en effet détourné à 7 heures du matin, sire. Mais voyant que midi était prêt à sonner et que je n'avais aucune nouvelle, j'ai craint qu'il ne fût arrivé malheur et je suis accouru. « En vérité, fit le roi. » Sire, dit le comte, si j'ai manqué à mon devoir, n'attribuez cette faute qu'à un excès de dévouement. Oui, monsieur, dit Henri, et croyez bien que je l'apprécie. Maintenant, reprit le comte avec hésitation, si votre majesté exige que je retourne à Vincennes, comme je suis rassuré. Non, restez, notre grand veneur. Cette chasse était une fantaisie qui nous était passée par la tête et qui s'en est allée comme elle était venue. Restez, ne vous éloignez pas. J'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui me sont dévoués, et vous venez de vous ranger vous-même parmi ceux sur le dévouement desquels je puis compter. » Montsoreau s'inclina. « Où votre majesté veut-elle que je me tienne ?» demanda le comte. « Veux-tu me le donner pour une demi-heure ?» demanda tout bas Chicot à l'oreille du roi. Pourquoi faire? Pour le tourmenter un peu. Qu'est-ce que cela te fait? Tu me dois bien un dédommagement pour m'obliger d'assister à une cérémonie aussi fastidieuse que celle que tu promets. Eh bien, prends-le. J'ai eu l'honneur de demander à votre majesté où elle désirait que je prisse place, demanda une seconde fois le comte. Je croyais vous avoir répondu où vous voudrez. Derrière mon fauteuil, par exemple, c'est là que je mets mes amis. « Venez ça, notre grand veneur, » dit Chicot, en livrant à monsieur de Montsoreau la portion de terrain qu'il s'était réservée pour lui tout seul. « Et flairez-moi un peu ces gaillards-là. Voilà un gibier qui se peut détourner sans limier. Ventre de biche, monsieur le comte, quelle fumée! Ce sont les cordonniers qui passent, ou plutôt qui sont passés. Ah, puis voici les tanneurs. Mort de ma vie, notre grand veneur, si vous perdez la trace de ceci, je vous déclare que je vous ôte le brevet de votre charge. » Monsieur de Montsoreau faisait semblant d'écouter, ou plutôt il écoutait sans entendre. Il était fort affairé et regardait autour de lui avec une préoccupation qui échappa d'autant moins au roi que Chicot eut soin de la lui faire remarquer. « Hé, dit-il tout bas au roi, sais-tu ce que chasse en ce moment ton grand veneur ?»« Non, que chasse-t-il ? Il chasse ton frère d'Anjou. » « Ce n'est pas à vue, en tout cas, dit Henri en riant. Non, c'est au jugé. Tiens-tu à ce qu'il ignore où il est ? Mais je n'en serais pas fâché, je l'avoue, qu'il fit fausse route. Attends, attends, dit Chicot, je vais le lancer sur une piste, moi. On dit que le loup a le fumet du renard, il s'y trompera. Demande-lui seulement où est la comtesse. Et pourquoi faire ? Demande, tu verras. Monsieur le comte, dit Henri, qu'avez-vous donc fait de madame de Montsoreau ? Je ne l'aperçois pas parmi ces dames. Le comte tressaillit comme si un serpent l'eût mordu au pied. Chicot se grattait le bout du nez en clignant des yeux à l'adresse du roi. « Sire, répondit le grand veneur, madame la comtesse était malade, l'air de Paris lui est mauvais, elle est partie cette nuit après avoir sollicité et obtenu congé de la reine avec le baron de Méridor, son père. « Et vers quelle partie de la France s'achemine-t-elle » demanda le roi, enchanté d'avoir une occasion de détourner la tête tandis que les tanneurs passaient. « Vers l'Anjou, son pays, sire. » Le fait est, dit Chicot gravement, que l'air de Paris ne sied point aux femmes enceintes. Gravidis uxoribus luteti in clemens. Je te conseille d'imiter l'exemple du comte, Henri, et d'envoyer aussi la reine quelque part, quand elle sera... Montsoreau pâlit et regarda furieusement Chicot, qui, le coude appuyé sur le fauteuil royal et le menton dans sa main, paraissait fort attentif à considérer les passementiers qui suivaient immédiatement les tanneurs. « Et qui vous a dit, monsieur l'impertinent, que la comtesse fut enceinte ?» murmura Montsoreau. « Ne l'est-elle point ?» dit Chicot. « Voilà ce qui serait plus impertinent, ce me semble à supposer. »« Elle ne l'est pas, monsieur. » « Tiens, 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 dit Chicot, as-tu entendu, Henri ? Il paraît que ton grand veneur a commis la même faute que toi. Il a oublié de rapprocher les chemises de Notre-Dame. » Montsoreau ferma ses poings et dévora sa colère, après avoir lancé à Chicot un regard de haine et de menace, auquel Chicot répondit en enfonçant son chapeau sur ses yeux et en faisant jouer, comme un serpent, la mince et longue plume qui ombrageait son feutre. Le comte vit que le moment était mal choisi et secoua la tête comme pour faire tomber les nuages dont il était chargé. Chicot se désassombrit à son tour et, passant de l'air matamore au plus gracieux sourire, « Ah, cette pauvre comtesse, ajouta-t-elle, est dans le cas de périr d'ennui par les chemins. « Je l'ai dit au roi, répondit Montsoreau, qu'elle voyageait avec son père. Soit, c'est respectable, un père, je ne dis pas non, mais ce n'est pas amusant. » Et si elle n'avait que ce digne baron pour la distraire par les chemins, mais heureusement... « Quoi ?» demanda vivement le comte. « Quoi, quoi ?» répondit Chicot. « Que veut dire heureusement ?»« Ah, mais c'est une ellipse que vous faisiez, monsieur le comte. » Le comte haussa les épaules. « Je vous demande bien pardon, notre grand veneur. La forme interrogative dont vous venez de vous servir s'appelle une ellipse. Demandez plutôt à Henri, qui est un philologue. » oui, dit Henri, mais que signifiait ton adverbe ? Quel adverbe ? Heureusement. Heureusement signifiait heureusement. Heureusement, disais-je, et en cela j'admirais la bonté de Dieu, heureusement qu'il existe à l'heure qu'il est, par les chemins, quelques-uns de nos amis, et des plus facétieux même, qui, s'ils rencontrent la comtesse, la distrairont à coup sûr. Et puis, ajouta négligemment Chicot, comme ils suivent la même route, il est probable qu'ils se rencontreront. Oh, je les vois d'ici. Les vois-tu, Henri, toi qui es homme d'imagination, les vois-tu sur un beau chemin vert caracolant avec leurs chevaux et contant à Madame la Comtesse 50 gaillardises dont elle pâme la chère dame. Second poignard, plus acéré que le premier, planté dans la poitrine du grand veneur. Cependant, il n'y avait pas moyen d'éclater. Le roi était là et Chicot avait, momentanément du moins, un allié dans le roi. Aussi, avec une affabilité qui témoignait des efforts qu'il avait dû faire pour dompter sa méchante humeur. « Quoi, vous avez des amis qui voyagent vers l'Anjou ? » dit-il en caressant Chicot du regard et de la voix. « Vous pourriez dire même, nous avons, monsieur le comte, car ces amis-là sont encore plus vos amis que les miens. » « Vous m'étonnez, monsieur Chicot, dit le comte, je ne connais personne qui... Bon, faites le mystérieux, je vous jure. Vous en avez si bien, monsieur le comte, et même ce vous sont des amis si chers que tout à l'heure par habitude, car vous savez parfaitement qu'ils sont sur la route de l'Anjou, que tout à l'heure par habitude, je vous ai vu les chercher dans la foule, inutilement, bien entendu. « Moi, fit le comte, vous m'avez vu... « Oui, vous, le grand veneur, le plus pâle de tous les grands veneurs passés, présents et futurs, depuis Nemrod jusqu'à Monsieur d'Autrefort, votre prédécesseur. Monsieur Chicot, le plus pâle, je le répète, veritas veritatum, ceci est un barbarisme attendu qu'il n'y a jamais qu'une vérité, vu que s'il y en avait deux, il y en aurait au moins une qui ne serait pas vraie. Mais vous n'êtes pas philologue, mon cher Ésaü. Non, monsieur, je ne le suis pas. Voilà pourquoi je vous prierai de revenir tout directement à ces amis dont vous me parliez et de vouloir bien, si cependant cette surabondance d'imagination qu'on remarque chez vous le permet, et de vouloir bien nommer ces amis par leur véritable nom. Et vous répétez toujours la même chose. Cherchez, monsieur le grand veneur, morbleu, cherchez. C'est votre métier de détourner les bêtes. Témoin, ce malheureux cerf que vous avez dérangé ce matin et qui ne devait point s'attendre à cela de votre part. Si l'on venait vous empêcher de dormir, vous, est-ce que vous seriez content? Les yeux de Montsoreau erraient avec effroi sur l'entourage d'Henri. Quoi? S'écria-t-il en voyant une place vide près du roi. « Allons donc, dit Chicot. Monsieur le duc d'Anjou, s'écria le grand veneur. Taillot, taillot, dit le Gascon, voilà la bête lancée. Il est parti aujourd'hui, s'exclama le comte. Il est parti aujourd'hui, répondit Chicot, mais il est possible qu'il ait parti hier au soir. Vous n'êtes pas philologue, monsieur, mais demandez au roi ce qu'il en est. Quand, c'est-à-dire à quel moment a disparu ton frère Henriquet ? Cette nuit, répondit le roi. « le duc est parti, murmura Montsoreau, blême et tremblant. Oh, « mon Dieu, que dites-vous là, sire ?»« Je ne dis pas, reprit le roi, que mon frère soit parti, je dis seulement que cette nuit, il a disparu et que ses meilleurs amis ne savent point où il est. »« Oh !» fit le comte avec colère, « si je croyais cela !» eh bien, que feriez-vous? D'ailleurs, voyez un peu le grand malheur quand il conterait quelque douceur à Madame de Montsoreau. C'est le galant de la famille que notre ami François. Il l'était pour le roi Charles IX du temps que le roi Charles IX vivait. Il l'est pour le roi Henri III qui a autre chose à faire que d'être galant. Que diable, c'est bien le moins qu'il y ait à la cour un prince qui représente l'esprit français. « le duc parti, répéta Montsoreau. En êtes-vous bien sûr, monsieur ?»« Et vous ?» demanda Chicot. Le grand veneur se tourna encore une fois vers la place ordinairement occupée par le duc près de son frère, place qui continuait de demeurer vide. « Je suis perdu, murmura-t-il, avec un mouvement si marqué pour fuir que Chicot le retint. « Tenez-vous donc tranquille, mordieu, vous ne faites que bouger, et cela fait mal au cœur du roi, mort de ma vie. Je voudrais bien être à la place de votre femme, ne fût-ce que pour voir tout le jour un prince à deux nez, et pour entendre monsieur d'Aurilly qui joue du luth comme feu Orphée. Ah, quelle chance elle-là, votre femme, quelle chance !» Montsoreau frissonna de colère. « Tout doux, monsieur le grand veneur, dit Chicot, cachez donc cette joie. Voici la séance qui s'ouvre. C'est indécent de manifester ainsi cette passion. Écoutez le discours du roi. » Force fut au grand veneur de se tenir à sa place, car en effet, petit à petit, la salle du Louvre s'était remplie. Il demeura donc immobile et dans l'attitude du cérémonial. Toute l'assemblée avait pris séance. Monsieur de Guise venait d'entrer et de plier le genou devant le roi, non sans jeter, lui aussi, un regard de surprise inquiète sur le siège laissé vacant par monsieur le duc d'Anjou. Le roi se leva. Les héros commandèrent le silence. « Messieurs, dit le roi, au milieu du plus profond silence, et après s'être assuré que d'Épernon, Schomberg, Maugiron et Quélus, remplacés dans leur garde par un poste de 10 Suisses, étaient venus le rejoindre et se tenaient derrière lui. « Messieurs, un roi entend également, placé qu'il est pour ainsi dire entre le ciel et la terre, les voix qui viennent d'en haut et les voix qui viennent d'en bas, c'est-à-dire ce que commande Dieu et ce que commande son peuple. » C'est une garantie pour tous mes sujets, et je comprends aussi parfaitement cela, que l'association de tous les pouvoirs réunis en un seul faisceau pour défendre la foi catholique. Aussi ai-je tenu pour agréable le conseil que nous a donné mon cousin de Guise. Je déclare donc la Sainte Ligue belle et dûment autorisée et instituée, et comme il faut qu'un si grand corps ait une bonne et puissante tête, comme il importe que le chef appelé à soutenir l'Église soit un des fils les plus zélés de l'Église, et que ce zèle lui soit imposé par sa nature même et sa charge, je prends un prince chrétien pour le mettre à la tête de la Ligue, et je déclare que désormais ce chef s'appellera... » Henri fit à dessein une pause. Le vol d'un moucheron eût fait événement au milieu de l'immobilité générale. Henri répéta, « Et je déclare que ce chef s'appellera Henri de Valois, roi de France et de Pologne. » Henri, en prononçant ces paroles, avait haussé la voix avec une sorte d'affectation en signe de triomphe et pour réchauffer l'enthousiasme de ses amis prêts à éclater, comme aussi pour achever d'écraser les ligueurs dont les sourds murmures décelaient le mécontentement, la surprise et l'épouvante. Quant au duc de Guise, il était demeuré anéanti. De larges gouttes de sueur coulaient de son front. Il échangeait un regard avec le duc de Mayenne et le cardinal, son frère, qui se tenaient au milieu des deux groupes de chefs, l'un à droite, l'autre à gauche. Montsoreau, plus étonné que jamais de l'absence du duc d'Anjou, commença à se rassurer en se rappelant les paroles de Henri III. En effet, le duc pouvait être disparu sans être parti. Le cardinal quitta sans affectation le groupe dans lequel il se trouvait et se glissa jusqu'à son frère. François, lui dit-il à l'oreille, ou je me trompe fort, ou nous ne sommes plus en sûreté ici. Hâtons-nous de prendre congé, car la populace est étrange, et le roi qu'elle exécrait hier va devenir son idole pour quelques jours. Soit, dit Mayenne, partons. Attendez notre frère ici, moi je vais préparer la retraite. Allez. Pendant ce temps, le roi avait signé le premier, l'acte préparé sur la table, et dressé d'avance par monsieur de Morvilliers, la seule personne qui fut, avec la reine-mère, dans la connaissance du secret. Et puis il avait, de ce ton goguenard qu'il savait si bien prendre dans l'occasion, dit en asillant à monsieur de Guise, « Signez donc, mon beau cousin !» Et il lui avait passé la plume. Puis, lui désignant la place du bout du doigt, « Là, là, avait-il dit, au-dessous de moi, maintenant passez à monsieur le cardinal et à monsieur le duc de Mayenne. » Mais le duc de Mayenne était déjà au bas des degrés et le cardinal dans l'autre chambre. Le roi remarqua leur absence. « Alors passez à monsieur le grand veneur, dit-il. » Le duc signa, passa la plume au grand veneur et fit un mouvement pour se retirer. « Attendez, dit le roi. » Et pendant que Quélus reprenait d'un air narquois la plume des mains de monsieur de Montsoreau, et que non seulement toute la noblesse présente, mais encore tous les chefs de corporation convoqués pour ce grand événement s'apprêtaient à signer au-dessous du roi et sur des feuilles volantes auxquelles devaient faire suite les différents registres où, la veille, chacun avait pu, qu'il fût petit ou grand, noble ou vilain, inscrire son nom en toutes lettres, pendant ce temps, le roi disait au duc de Guise, « Mon cousin, c'était votre avis, je crois, faire pour garde de notre capitale une bonne armée avec toutes les forces de la Ligue. Ah, l'armée est faite et convenablement faite, puisque le général naturel des Parisiens, c'est le roi. Assurément, sire, répondit le duc sans trop savoir ce qu'il disait. Mais je n'oublie pas, continua le roi, que j'ai une autre armée à commander, et que ce commandement appartient de droit au premier homme de guerre du royaume, tandis que moi, je commanderai à la Ligue. Allez donc commander l'armée, mon cousin. Et quand dois-je partir? Demanda le duc. Sur le champ, répondit le roi. Henri, Henri, fit Chicot, que l'étiquette empêcha de courir sus au roi pour l'arrêter en pleine harangue comme il en avait envie. Mais comme le roi ne l'avait pas entendu, ou s'il l'avait entendu, ne l'avait pas compris, il s'avança, révérencieusement, tenant à la main une énorme plume, et se faisant jour jusqu'à ce qu'il fût près du roi. « Tu te tairas, j'espère, double niais, » lui dit-il tout bas. Mais il était déjà trop tard. Le roi, comme nous l'avons vu, avait déjà annoncé au duc de Guise sa nomination et lui remettait son brevet, signé à l'avance, et cela malgré tous les gestes et toutes les grimaces du Gascon. Le duc de Guise prit son brevet et sortit. Le cardinal l'attendait à la porte de la salle et le duc de Mayenne les attendait tous deux à la porte du Louvre. Ils montèrent à cheval à l'instant même, et 10 minutes ne s'étaient point écoulées que tous trois étaient hors de Paris. Le reste de l'assemblée se retira peu à peu. Les uns criaient « Vive le roi !» Les autres criaient « Vive la Ligue !» Au moins, dit Henri en riant, j'ai résolu un grand problème. « Oui, oui, murmura Chicot, tu es un fier mathématicien, va. « Sans doute, reprit le roi, en faisant pousser à tous ces coquins les deux cris opposés, je suis parvenu à leur faire crier la même chose. » « Sta bene, » dit la reine mère à Henri en lui serrant la main. Crois cela et bois du petit lait, dit le Gascon. Elle l'enrage, ses guises sont presque aplaties du cou. « Oh, sire, sire !» s'écrièrent les favoris en s'approchant tumultueusement du roi. « La sublime imagination que vous avez eue là !»« Il croit que l'argent va pleuvoir comme manne, » dit Chicot à l'autre oreille du roi. Henri fut reconduit en triomphe à son appartement. Au milieu du cortège qui accompagnait et suivait le roi, Chicot jouait le rôle du détracteur antique en poursuivant son maître de ses lamentations. Cette persistance de Chicot à rappeler au demi-dieu du jour qu'il n'était qu'un homme frappa le roi au point qu'il congédia tout le monde et demeura seul avec Chicot. « Ah ça, dit Henri en se retournant vers le Gascon, savez-vous que vous n'êtes jamais content, maître Chicot, et que cela devient assommant? Que diable, ce n'est pas de la complaisance que je vous demande, c'est du bon sens. »« Tu as raison, Henri, dit Chicot, car c'est ce dont tu as le plus besoin. Conviens au moins que le coup est bien joué. C'est justement de cela que je ne veux pas convenir. Tu es jaloux, monsieur le roi de France. Moi, Dieu m'en garde, je choisirais mieux mes sujets de jalousie. « Corbleu, monsieur l'épilogueur! Oh, quel amour-propre féroce! Mais voyons, suis-je ou non le roi de la Ligue? Certainement, et c'est incontestable, tu l'es. Mais quoi? Mais tu n'es plus roi de France. Et qui donc est roi de France? Tout le monde, excepté toi, Henri, ton frère d'abord. Mon frère, de qui veux-tu parler? De monsieur d'Anjou, parbleu, que je tiens prisonnier. « Oui, car tout prisonnier qu'il est, il est sacré, et toi tu ne l'es pas. »« Par qui est-il sacré ?»« Par le cardinal de Guise. En vérité, Henri, je te conseille de parler encore de ta police. On sacre un roi à Paris devant 33 personnes, en pleine église Sainte-Geneviève, et tu ne le sais pas. »« Oui, tu le sais, toi. »« Certainement que je le sais. »« Et comment peux-tu savoir ce que je ne sais pas ?» « Ah, parce que tu fais faire ta police par monsieur de Morvilliers, et que moi, je fais ma police moi-même. » Le roi fronça le sourcil. « Nous avons déjà comme roi de France, sans compter Henri de Valois, nous avons François d'Anjou, et puis nous avons encore, voyons, dit Chicot, en ayant l'air de chercher, nous avons encore le duc de Guise. »« Le duc de Guise ?» Le duc de Guise, Henri de Guise, Henri le Balafré. Je répète donc, nous avons encore le duc de Guise. » Beau roi, en vérité, que j'exile, que j'envoie à l'armée. Bon, comme si on ne t'avait pas exilé en Pologne, toi. Comme s'il n'y avait pas plus près de la Charité au Louvre que de Cracovie à Paris. Ah, il est vrai que tu l'envoies à l'armée. Voilà où est la finesse du coup, l'habileté de la botte. Tu l'envoies à l'armée, c'est-à-dire que tu mets 30 000 hommes sous ses ordres, ventre de biche. Quelle armée? Une vraie armée. Ce n'est pas comme ton armée de la Ligue. Ah non, non, une armée de bourgeois, c'est bon pour Henri de Valois, roi des Mignons. À Henri de Guise, il faut une armée de soldats. Et quels soldats? Durs, aguerris, roussis par le canon, capable de dévorer 20 armées de la Ligue. De sorte que si, étant roi de fait, Henri de Guise avait un jour la sotte fantaisie de devenir de nom, il n'aurait qu'à tourner ses trompettes du côté de la capitale et dire « En avant, avalons Paris d'une bouchée, et Henri de Valois et le Louvre avec, il le ferait les drôles, je les connais. » Mais vous oubliez une chose seulement dans votre argumentation, illustre politique que vous êtes, dit Henri. Ah, dame, cela est possible, surtout si ce que j'oublie est un quatrième roi. Non, vous oubliez, dit Henri avec un suprême dédain, que pour songer à régner sur la France, quand c'est un Valois qui porte la couronne, il faut un peu regarder en arrière de compter ses ancêtres. Que pareille idée vienne à monsieur d'Anjou, passe encore, il est de race à y prétendre, lui, ses aïeux sont les miens, il peut y avoir lutte et balance entre nous, car entre nous c'est une question de primogéniture. C'est voilà tout. Mais, monsieur de Guise, allons donc, maître Chicot, allez étudier le blason, notre ami, et dites-nous si les fleurs de lys de France ne sont pas de meilleure maison que les merlettes de Lorraine. Eh, fit Chicot, voilà justement où est l'erreur, Henri. Comment, où est l'erreur? Hein, sans doute, monsieur de Guise est de bien meilleure maison que tu ne crois, va. De meilleure maison que moi, peut-être, dit Henri en souriant. Il n'y a pas de peut-être, mon petit Henriquet. Vous êtes fou, monsieur Chicot. Dame, c'est mon titre. Ah, mais je dis véritablement fou, mais je dis fou allié. Allez apprendre à lire, mon ami. Eh bien, Henri, dit Chicot, toi qui sais lire, toi qui n'as pas besoin de retourner comme moi à l'école, lis un peu ceci. Et Chicot tira de sa poitrine le parchemin sur lequel Nicolas David avait écrit la généalogie que nous connaissons, celle-là même qui était revenue d'Avignon, approuvée par le pape, et qui faisait descendre Henri de Guise de Charlemagne. Henri pâlit dès qu'il eut jeté les yeux sur le parchemin et reconnut, après la signature du légat, le sceau de Saint-Pierre. Qu'en dis-tu, Henri? Demanda Chicot. Les fleurs de lys sont un peu distancées, hein? Ventre de biche. Les merlettes me paraissent vouloir voler aussi haut que l'aigle de César. Prends-y garde, mon fils. Mais par quel moyen t'es-tu procuré cette généalogie? Moi, est-ce que je m'occupe de ces choses-là? Elle est venue me trouver toute seule. Mais où était-elle avant de venir te trouver? Sous le traversin d'un avocat. Et comment s'appelait cet avocat? Maître Nicolas David. Où était-il? À Lyon. Et qui l'a été prendre à Lyon sous le traversin de cet avocat? Un de mes bons amis. Et que fait-il, cet ami? Il prêche. C'est donc un moine? Juste. Et qui se nomme? Goranflot. Comment, s'écria Henri, cet abominable ligueur qui a fait le discours incendiaire de Sainte-Geneviève et qui, hier, dans les rues de Paris, m'insultait? Te rappelles-tu l'histoire de Brutus qui faisait le fou? Mais c'est donc un profond politique que ton Génovéfain. Avez-vous entendu parler de monsieur Machiavelli, secrétaire de la République de Florence, votre grand-mère et son élève? Alors il a soustrait cette pièce à l'avocat. Eh bien oui, soustrait, il lui a prise de force. À Nicolas David, à ce spadassin. À Nicolas David, à ce spadassin. Eh, il est donc brave, ton moine. Oh, comme Bayard. Et ayant fait ce beau coup, il ne s'est pas encore présenté devant moi pour recevoir sa récompense. Il est rentré humblement dans son couvent, et il ne demande qu'une chose, c'est qu'on oublie qu'il en est sorti. Il est donc modeste, comme Saint Crépin. Chicot, foi de gentilhomme, ton ami aura la première abbaye vacante, dit le roi. Merci pour lui, dit Henri. Et puis, à lui-même, ma foi, se dit Chicot, le voilà entre Mayenne et Valois, entre une corde et une prébende. Sera-t-il pendu? Sera-t-il abbé? Bien fin qui pourrait le dire. En tout cas, s'il dort encore, il doit faire en ce moment de drôles de rêves.